Oui, bah, effectivement, c'est de créer les leçons, de se donner dans les leçons, c'est relativement simple, mais il y avait toujours le groupe derrière. Et ce groupe génère des comportements qui sont inhabituels, en tout cas qui ne sont pas identiques. Et le groupe pose des problèmes. Donc, je me suis posé la question de dire, mais qu'est-ce que l'on fait avec ces élèves qui sont simplement un petit peu différents? Et c'est pour ça que je me suis formé en thérapie sociale, donc avec Charles Rochman. Je suis toujours en supervision avec lui et c'est lui qui a mis en place cette démarche de thérapie sociale. En fait, c'est favoriser le lien entre l'individu et le groupe, si on peut aller bref.
Donc c'est comme une forme de médiation, en fait.
C'est une forme de médiation, mais simplement comme on va chercher avec tout le monde les difficultés, c'est un complément de la médiation, je dirais.
Est-ce qu'il y a des domaines d'intervention particuliers ou est-ce que vous avez des exemples de domaines, effectivement?
Oui, alors il y a beaucoup de domaines. Toutes les fois qu'il y a un groupe, en fait, chaque fois qu'il y a un groupe, il y a ce type de difficulté. Bien sûr que comme je suis enseignant, je travaille beaucoup dans les écoles, avec des classes qui sont difficiles, souvent malheureusement, je dirais, un peu en pompier, c'est-à-dire que quand on ne peut plus travailler ensemble, donc là on me fait venir. Et puis, de plus en plus, j'essaye aussi de travailler avec les parents. C'est-à-dire de rencontrer les parents, mais d'abord sans l'institution école, parce que sans ça, ils sont sur la défensive. Et les parents aussi comprennent qu'il y a des difficultés entre les parents, que tout le monde n'a pas les mêmes valeurs au niveau éducatif. Et ça permet après de mieux travailler ensemble, en fait. C'est ça l'idée.
L'école, ça a toujours été un milieu de conflit ou c'est quelque chose qui s'accentue ces dernières années? Vous qui avez une longue expérience dans le milieu scolaire, vous voyez les choses changer, évoluer et pas forcément dans le meilleur des sens?
Je ne pourrais pas dire ça comme ça. Je pense que c'est beaucoup plus. Les ados, j'ai entendu l'invité d'avant, les ados, ils nous mettent le doigt exactement sur nos problèmes d'adultes aussi et nos incohérences d'adultes. Alors là, ils y vont de façon beaucoup plus pointue et on n'est pas tellement formé pour ça.
C'est vraiment peur de rien.
C'est, en fait,
pour
je
les
dirais
ados.
peur. Non, je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais peur de tout. Peur de rien et de tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que l'on est avec les autres, il y a la peur de pas avoir sa place dans le groupe, la peur de pas être aimé, la peur de pas exister, la peur d'être humilié par les autres. Et dès notre petite enfance, on a développé des stratégies pour ça. Alors, ce qui sont, qu'on peut appeler dans le jargon, un peu des masques. C'est-à-dire que vous avez des élèves qui arrivent dans un groupe ou des adultes, parce que c'est exactement la même chose, et qui ont peur de ne pas exister et qui ont tout le temps beaucoup d'énergie pour parler, pour prendre beaucoup de place. Et d'autres qui ont exactement les mêmes peurs, ils rasent plutôt les murs, ils vont se mettre dans un coin, il ne faut surtout pas qu'on parle avec eux, ils aimeraient bien qu'on les laisse tranquilles. C'est la même peur, mais c'est des masques différents, des stratégies différentes pour se protéger du groupe.
Alors, vous le disiez, vous intervenez parfois dans des classes où les enseignants n'arrivent plus à travailler avec la classe. Vous rencontrez les parents, vous rencontrez les élèves. Il y a des rencontres qui se font après, j'imagine, tous ensemble. Est-ce qu'il y a des stratégies de résolution des conflits des classes qui, après, reprennent le travail sur de meilleurs rails?
Le but, il est là, en fait, c'est de travailler ensemble avec des personnes avec qu'on n'a pas choisi, que ce soit ici à la radio,
alors ça, je vous confirme,
que ce soit dans la classe, on n'a pas choisi. Et le but, il faut se sortir un petit peu peut-être de l'illusion qu'on doit bien s'aimer pour travailler ensemble. Non, on travaille ensemble. Est-ce qu'on échange des informations de travail? C'est uniquement ça, en fait, le but. C'est pas d'être les meilleurs amis du monde. Souvent, je vois des enseignants qui demandent à des classes de pouvoir être vraiment de s'entendre très très bien et tout, alors que quand je vais dans la salle des maîtres, c'est très compliqué aussi. Donc, c'est comme si on avait une illusion qu'il faut bien s'aimer pour travailler ensemble. Non, il faut pouvoir échanger. Mais pour ça, c'est ce que je mets derrière la constitution du groupe. Il y a des étapes, on a tous des préjugés, on a tous des fonctionnements, des peurs, des attitudes qui font qu'on a de la peine avec l'autre, alors on se protège. Et pour se mettre protéger des peurs, il y a deux attitudes générales. C'est des masques. Hein, on en a donné deux avant, mais il y en a encore d'autres, bien sûr. Mais aussi de se mettre en clan. Des gens qui, ceux qui sont très spectaculaires. Quand je vais dans une classe et puis qu'on me dit, oui, il y a des élèves qui posent problème, je les vois tout de suite. Ils vont tout de suite me montrer. Ils vont se mettre ensemble. Et les élèves qui sont en difficulté, ils vont se mettre ensemble aussi. Physiquement même, ils vont s'asseoir de façon...
Les uns avec les autres.
Oui, et c'est ce qu'on appelle les clans. Et à l'intérieur du clan, c'est aussi difficile de se sortir de ça parce qu'il y a des enjeux de pouvoir entre les gens, que ce soit dans le clan ou ailleurs. Comment se sortir de ça pour simplement pouvoir travailler ensemble? C'est ça l'objectif.
Alors justement, quand vous allez rencontrer une classe avec où il y a des difficultés à travailler ensemble, ça va être quoi la première chose que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez entrer en contact avec eux? Qu'est-ce qu'est la première chose que vous allez leur dire?
La posture que j'ai, c'est d'abord cette posture qu'on pourrait appeler de bon docteur. Il faut qu'ils puissent me faire confiance. Il faut qu'il se passe quelque chose en disant « Ah, on va pouvoir dire des choses qui sont peut-être des choses désagréables. Est-ce que déjà je vais vérifier si le malaise qui est vu par les profs, si eux le partagent ?» Parce que ce n'est pas nécessairement le même malaise. Alors donc, je vais vérifier avec eux de quoi la classe a besoin et comment ils se situent dans la classe. Et quand, en général, ils sont assez cohérents avec les profs, c'est difficile, et ils mettent des notes basses sur leur classe, ils disent « ben voilà, on va chercher ensemble pour que ça aille mieux ». Mais personne n'a la solution. Et pour pouvoir travailler, bon, là, il faut qu'il y ait un malaise, sans ça, on ne me fait pas venir, évidemment. Et puis, la deuxième condition, c'est que personne n'a la solution. Moi, je n'arrive pas avec une solution clé en main, mais j'ai la conviction que ce groupe-là a la solution. Pour autant qu'ils puissent dire des choses qu'ils ne se disaient pas avant. Et puis la troisième solution, c'est que la troisième chose qu'il faut avoir, c'est qu'il faut travailler ensemble, avoir l'obligation. Si on n'a pas l'obligation de travailler ensemble, on ne va pas faire un travail sur le fonctionnement du groupe.